Lille. Nancy Ypsilantis.
Bonjour et bienvenue à Babylone. Comment notre monde du travail a-t-il évolué ces 50 dernières années? Travaillons-nous plus, moins, mieux aujourd'hui qu'hier? Pour le savoir, on étudie les chiffres, les statistiques, les salaires. Mais pour avoir une vision plus riche, on se penche aussi sur des souvenirs, les souvenirs de travailleurs. Et c'est ce qu'a fait une équipe d'historiens et d'historiennes sur un cas très particulier, Laurence Di Félix, celui de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'Université de Genève.
Oui, c'est un travail assez admirable, un travail considérable qui a pris d'ailleurs de nombreuses années, qu'on va essayer de mettre en perspective avec le monde du travail en Suisse de façon plus générale pour ne pas rester centré sur l'histoire de cette faculté. Et on va le faire en accueillant aujourd'hui Laurent Tissot, qui est professeur en histoire contemporaine à l'Université de Neuchâtel.
Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Laurence, revenons à cette FABC, comme on l'appelle.
Faculté donc de psychologie et de sciences de l'éducation. Alors effectivement, cette étude qui a été faite sur ce cadre, elle a été faite de cette manière-là. Des chercheurs, des historiens sont allés à la rencontre d'une cinquantaine d'enseignants qui sont passés par la FABC depuis 1955. Ils leur ont posé des questions qui avaient trait à leurs conditions d'engagement, à leurs conditions de travail, aux rapports qu'ils entretenaient avec leur hiérarchie, avec leurs collègues aussi. Ils leur ont posé des questions sur leur vie privée, possibilité pour les femmes de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, au hasard des parcours, etc. Bref, il en ressort une histoire plurielle d'un milieu professionnel particulier. J'aimerais bien souligner l'originalité de cette démarche. C'est une démarche qu'on qualifie d'histoire orale avec ses entretiens. Des démarches qui existent depuis une trentaine d'années. Ces collectes de témoignages, mais elles sont plus courantes pour écrire l'histoire des milieux populaires, des milieux ouvriers pour lesquels il existe peu de témoignages écrits, de sources écrites. En revanche, il est assez exceptionnel d'aller s'intéresser au parcours de vie d'universitaires ou de cadres de haute fonction. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'ils ont été assez nombreux, les enseignants, à refuser de jouer ce jeu-là et de livrer leurs témoignages à ce livre, un livre qui s'intitule « Histoire vive d'une faculté » et qui est paru tout récemment aux éditions Antipode.
Une faculté qui a eu ses hauts et ses bas. On peut parler de moments de rupture, de grandes périodes.
Oui, en tout cas, il y a des moments où les mentalités évoluent vite, des contextes économiques aussi qui évoluent. Les historiennes qui ont piloté ce livre, Nadine Fink et Nora Natchkova, ont perçu trois périodes assez distinctes, séparées par deux moments clés, mai 68 d'abord, et puis ensuite les tensions économiques du début des années 80, 83-84, qui font entrer la faculté dans une période difficile, ce qui ressort très nettement des témoignages qu'elles ont récoltés.
Laurence, pour entrer dans cette mémoire, nous allons entendre de nombreux passages du livre et nous allons aussi entendre une des co-auteurs, Mathilde Frémont, qui est assistante à la FAPC. Mais nous avons aussi eu envie de créer donc ces pont entre le milieu professionnel particulier et celui que nous vivons aujourd'hui. En d'autres mots, ces professeurs qui ont été tricotés nous ont également tricotés. Et à quel moment est-ce que ces grandes ruptures interviennent dans notre vie? Laurent Tissot, est-ce qu'on peut dire qu'on est issu de la craie de ces enseignants?
C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que quand même là, on a un milieu professionnel assez particulier qui est caractérisé quand même par une visée, je dirais, innovatrice, en termes de discipline, en termes de réflexion, en termes d'organisation. Donc, il y a eu certainement des liens et des transferts entre ce qui s'est passé dans ces milieux-là et des milieux économiques plus larges, des milieux industriels, des milieux administratifs. Disons que je nuancerai quand même le propos. Dans la mesure où, étant depuis 30 ans dans ces milieux-là, on a le sentiment que peut-être on vit dans un autre monde.
On va mettre ces deux mondes en miroir. On a une heure pour le faire. Pour ouvrir ce Babylone, Laurence, on va ouvrir les portes de la FAPC.
Ouais, l'étude commence dans les années 50. À l'époque, les bureaux de l'école de psychologie sont au Palais Wilson, à Genève. Matériellement, vous allez l'entendre, c'est une période plutôt difficile. L'Institut des sciences de l'éducation était vraiment très très marginal. On était les parents pauvres de l'université, on n'avait pas du tout les mêmes règlements, on n'avait pas du tout les mêmes droits. Et surtout au niveau budget, quand il restait 4 sous au fond de la caisse, on regardait si on allait nous les donner. Les locaux au Palais Wilson étaient crasseux, mais crasseux parce qu'il n'y avait même pas eu d'argent, semblerait-il, pour laver une bonne fois. On manquait de locaux, alors on essayait toujours de voir si on n'avait pas une meilleure combinaison pour récupérer un peu de place. On avait des salles de cours qui étaient répandues un peu partout. Dans tous les paquis, rue de Montoux, rue de Berne, rue de Lausanne, les étudiants avaient des mollets à l'époque.
J'ai connu le début de l'Institut comme une petite famille dont la maman était tante Odette. C'était un personnage essentiel dans l'institution. Elle était à la fois la secrétaire personnelle de Piaget et la secrétaire de l'Institut pour les étudiants. Par exemple, les histoires d'examens et de notes. Les étudiants en avaient un peu peur, mais c'était quand même elle qui avait toute l'information sur l'institution. Odette décidait de tout ce qui est maintenant dévolu à une dizaine de personnes. Il y avait des repas magnifiques chez Tua et Winbang. On avait un peu cette impression d'une petite équipe, de familiarité.
On était une quarantaine à cette époque, entre professeurs, étudiants, une quarantaine de personnes en tout. On faisait des fondus chaque fin d'année, c'était vraiment, je dirais pas familial, mais en tous les cas, on était comme un vrai groupe de recherche. On avait tous les lundis matins une réunion des assistants à 8h, Piaget venait, il y avait des croissants, un peu de café. Il prenait toujours un café au lait avec des croissants qu'il mettait dans le café au lait et on travaillait le lundi matin avec lui.
Mathilde Frémont, les souvenirs que nous venons d'entendre, ils datent des années 55-60. La faculté de psychologie et de sciences de l'éducation n'existe pas encore en tant que telle à l'époque. Qu'est-ce que c'est ce lieu dont parlent ces chercheurs ?
C'est un lieu qui, selon ces récits, a un aspect un peu mythique. Mais en même temps, c'est un lieu qui n'est aussi pas une faculté, qui ne fait pas partie de l'université, qui est un peu à côté, qui est un peu comme une institution qui s'autogère, qui se construit par elle-même et en fonction des gens qui y sont à l'intérieur. Et c'est vraiment ce qui ressort à travers ces différents témoignages, récits, et qu'on sent se construire petit à petit en fonction des réseaux et surtout de la figure nodale de Jean Piaget.
Mmh, c'est un petit organisme. C'est un organisme dans lequel on enseigne et on fait de la recherche en sciences de l'éducation, en psychologie. Comment ça se structure tout ça ?
Alors, dans ces années, les différents récits montrent bien que Jean Piaget a à ce moment une toute puissance sur cette institution et que tout s'organise autour de lui et de ses intérêts. Le système de Piaget était assez bien rodé, c'est-à-dire qu'il mettait à l'écart toute personne qui n'avait pas le même avis ou qui présentait un avis différent. Même si c'était pas le même objet de recherche, Piaget écartait la personne finalement du fonctionnement même de l'institution.
Il y avait quand même cette cour autour de Piaget qui était assez effroyable quand on y pense, mais qui était une réalité. Enfin, les gens disaient « le patron ». Il y avait une sorte d'idolâtrie de Piaget, qui était sûrement excessive, même si j'adhère encore à beaucoup de ses idées. Un autre point de friction avec les piagétiens, c'était les assistants. Je n'avais pas compris ça, mais j'étais censé prêter mes assistants à Piaget pour qu'ils aillent au centre et qu'ils fassent des recherches pour lui. Soi-disant, chaque prof qui avait des assistants devait donner un droit à Piaget de les utiliser, et moi je n'avais pas compris. J'ai dit, mais comment ? Je viens ici, je ne connais rien, j'ai des assistants d'une très grande valeur, des moniteurs, etc. Et je veux travailler avec eux pour comprendre le truc piagétien. Donc tout ce système, c'était très étrange pour quelqu'un qui venait du CNRS où on avait une liberté totale. Mais il fallait composer. Et puis, ça n'a pas marché trop mal, je pense. Piaget était très fier que les étudiants fassent de la recherche dès la première année. C'était le discours officiel de Piaget. C'était une escroquerie. C'est scandaleux de dire qu'on faisait de la recherche parce qu'on était en fait des dactylos, des secrétaires qui prenaient des notes et qui ensuite retranscrivaient.
Mathilde Frémont, on entend dans ces témoignages des critiques du grand Piaget, des critiques toujours assez feutrées, c'est-à-dire toujours assez relativisées. On le critique, mais derrière, on va dire que finalement, c'était pas si mal. C'est une preuve pour vous que la pression existe encore, 50 ans plus tard ?
Je ne sais pas comment on peut l'interpréter. Ce qui ressort en tout cas des récits, c'est que bien que le système n'était pas très favorable pour les personnes qui n'étaient pas le patron, puisqu'ils devaient tout donner à cette personne, et même des assistants comme ça vient d'être dit dans un des passages, à ce moment-là, chaque personne qui partait à l'étranger avait une réputation. C'est-à-dire que les personnes qui venaient de l'école de Genève, c'était comme ça qu'on les appelait, avaient cette aura qui les suivait. Donc, en même temps, sur place, c'était des conditions qui pouvaient être considérées comme pas faciles. Mais au moment où ils devaient partir, ils avaient comme une espèce de carte de visite. Et ils pouvaient s'intégrer dans de multiples universités, comme aux États-Unis. Beaucoup d'assistants sont partis aux États-Unis et ont continué la recherche ailleurs.
C'est une sorte de sacrifice pour faire partie de ce club. Et puis, ce club, c'est quelque chose qui va les suivre. Alors, on parle beaucoup de ce côté abuseur du chef. Et puis, d'un autre côté, on parle beaucoup de passion. C'est peut-être aussi une chose qui ressort de ces récits des années 50-60, des gens qui travaillent par passion.
On sent une grande effervescence qui, je pense, mènera, si on le replace dans un contexte plus général, à mai 68. Et je pense que ces périodes avant, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les gens s'investissent sur le social. Et je pense que l'éducation, de manière plus générale, est quelque chose en laquelle on croit. Et Piaget va représenter une figure qui va œuvrer pour l'éducation, pas seulement au niveau de l'Institut, mais aussi à travers le Bureau international de l'éducation et d'autres endroits où il a une influence et constitue une figure finalement majeure qui œuvre pour l'éducation. Et je pense que c'est là qu'on peut comprendre aussi toute cette effervescence qui existe à l'intérieur de l'Institut.
On croit à ce qu'on fait et on est donc prêt à y passer des nuits blanches et à se lever à 6 heures du matin. En ce qui concerne cette première période qui nous mène des années 50 à cette effervescence de 1968, une des choses qui marque aussi les témoignages d'histoire vive d'une faculté, cette étude, c'est le hasard des parcours où on a l'impression que la plupart des chercheurs n'avaient pas du tout l'intention de débarquer là. C'est une spécificité de cette période, Mathilde Frémont ?
On peut le voir de cette manière. En tout cas, les récits nous mènent à penser qu'à ce moment-là, souvent ça se passe au niveau des rencontres. Donc les rencontres constituent quelque chose de fondamental dans le parcours du chercheur. Un jour, on croise quelqu'un et il nous dit « Ah mais pourquoi tu ne ferais pas une thèse ? Pourquoi tu ne viendrais pas dans mon équipe ?» Et on a cette sensation encore d'une proximité, de quelque chose de petit qui fait qu'on peut reconnaître les gens, on peut les voir et on peut les appeler. Si on compare actuellement à la faculté de psychologie et de sciences d'éducation, tous les bureaux sont éclatés et on est réunis avec d'autres facultés, ce qui fait qu'on repère moins les gens, on les voit moins, on les côtoie moins. Et je pense que ça, c'est une grande différence entre cette période-là et la période actuelle.
Mmh. Et puis aussi une période qui laisse des chances à des gens qui n'ont pas un parcours tout à fait typique, une période peut-être moins centrée sur les CV, sur les diplômes.
Exactement, une période où finalement on a l'impression que ça marche un peu au feeling. Si on a l'impression que la personne est investie, qu'elle comprend, qu'elle voit dans quel sens finalement les recherches se font et qu'ils ont envie, à ce moment-là, une idée un peu méritocratique, donc si on s'investit, à ce moment-là, on peut avoir une place.
André Bullinger. J'ai d'abord fait des études d'ingénieur à Genève en électronique. Ensuite, j'ai fait 2 ans de maths à l'université. Et pour gagner ma vie, j'avais trouvé un boulot de préparateur dans un petit groupe un peu bizarre. On avait un patron qui s'appelait Piaget. J'étais là comme bricoleur pour construire des appareils pour des chercheurs du Centre international d'épistémologie génétique. C'était dans les années 60 pour payer mes études. Pendant ce temps-là, j'ai croisé M. Piaget qui m'a dit qu'il fallait que je fasse de la psycho. Alors j'ai fait mon diplôme spécial d'orientation professionnelle que j'ai eu en 1967. En 1968, j'avais le diplôme général de psychologie et la licence en psychologie génétique. En tant qu'assistant, nous avions eu l'effronterie de demander à Piaget si on pouvait avoir 10% de notre temps pour les travaux de thèse et on s'est fait remballer de première. On était loin des 40% actuels. Il nous a dit « Je ne vous ai jamais vu au laboratoire à 6 heures du matin. Vous avez le temps. Vous pouvez faire vos travaux de thèse entre 6 heures et 8 heures, ou bien le dimanche. » Le système d'exploitation, que je ne critique pas vraiment, puisque ça nous permettait de nous mettre directement dans la vraie recherche, était quand même effectivement une sorte de système de cheap labor pour recueillir des données. Ils avaient l'avantage à ce que les doctorants restent le plus longtemps possible. Quand j'ai vu ça, j'ai décidé de ne pas faire ma thèse à Genève avec cette équipe-là.
Laurent Tissot, je rappelle, vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'université de Neuchâtel, que vous avez écrit un ouvrage sur l'histoire de l'université de Lausanne. À l'écoute de ces témoignages, on a l'impression que les choix sont le fruit de rencontres électives.
Oui.
Et pas de plan de carrière.
Absolument, c'est ce qui ressort de cela. Mais il y a peut-être trois points qu'on peut mettre en évidence et qu'on peut relier. Il y a premièrement ce qui est absolument bien sûr central, c'est la figure du père. C'est Piaget,
la figure, le patron,
le maître, qui est omniprésent. Le deuxième point intéressant, et qui fait un peu la spécificité de cette faculté, c'est le terme de recherche, qui, à l'époque, est quand même quelque chose qui n'est pas très connu. La recherche commence. Le Front National de la Recherche Scientifique est créé en 1952. Donc c'est en quelque sorte un élément qu'on ne maîtrise pas. Donc Piaget inaugure une façon quand même de travailler qui est nouvelle, mais qui s'ancre dans des traditions académiques qui sont celles qu'il a vécues lui-même, c'est-à-dire d'être le chef, le patron. Et le troisième élément qui est intéressant, c'est le petit nombre. C'est des séminaires qui ne réunissent pas beaucoup de monde. Donc, ce qui fait que ce triangle fonctionne très bien, parce que le maître peut contrôler un petit nombre, et en quelque sorte, il a les clés pour comprendre ce que c'est que la recherche. Et tout tourne autour de là. Et le témoignage du dernier interviewé montre très bien comment ça se passe, puisque lui n'a pas ces clés-là. Il entre dans un monde, finalement, où il est téléguidé. Et lorsqu'il il émet quelques contestations, ou il émet quelques questions, c'est soit tu fermes ou tu restes. Mais c'est un mode de fonctionnement, alors qui est omniprésent dans d'autres facultés. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on voit ce Piaget qui est quand même quelqu'un d'étonnant. C'est qu'il il introduit ces éléments de recherche. On n'est pas l'enseignant, l'universitaire n'est pas seulement là pour transmettre une connaissance. Il est là pour découvrir.
Et c'est une figure qui souvent est bienveillante, bien que despotique. C'est quelque chose, ce paternalisme, qui existe en dehors de l'univers universitaire dans les années 50. C'est la norme des petites entreprises, fonctionnement familial, avec une figure du patron très présente.
Absolument, absolument. C'est un contrat qui est passé. C'est-à-dire, le paternalisme, il y a une obligation d'aide du patron, mais il y a une obligation d'une soumission de la part de l'employé. Donc c'est donnant-donnant. Je te donne du travail, mais en retour, tu m'es fidèle. Et c'est un modèle qui commence au début du 19e siècle, hein, dans des grandes entreprises, vous avez des figures patronales qui dominent, qui prédominent, et qui, en quelque sorte, sont là, au berceau de l'ouvrier, jusqu'à la mort. Donc c'est une figure de terrorisme, en quelque sorte, parce qu'il y a une soumission totale de l'ouvrier face à ce patron qui lui offre tout. Qui lui offre un logement, un salaire, des activités sportives, ludiques, de loisirs, et qui pense ensuite à sa vieillesse. Mais la contrepartie, c'est de se taire et de travailler.
Est-ce que les ouvriers dans les années 50, au début des années 60, se taisent vraiment? Là, on a l'impression dans les témoignages que il y a une acceptation aussi par révérence vis-à-vis de cette figure importante. Oui. Ailleurs, dans les entreprises, est-ce que c'est toujours comme ça?
Alors là, vous l'avez dit, il faut dissocier entre la petite entreprise, la PME, et la grande entreprise, où là, le mode de fonctionnement est différent parce que vous avez une meilleure intégration des syndicats qui ont plus de poids et qui peuvent faire valoir des revendications face au patron. Donc, dans les grandes entreprises, on a peut-être là un changement. C'est plus la figure patronale qui a toujours été celle qu'on a connue et qui est toujours le cas dans les petites entreprises, mais une figure patronale qui se modifie parce qu'il comprend les enjeux. Donc, en quelque sorte, l'ouvrier n'est plus quelqu'un qu'on va dominer, mais c'est un partenaire. C'est la semaine du partenariat, on va signer des contrats. Donc le mode de gouvernance va forcément changer sans que la figure disparaisse, parce que le patron, c'est quand même celui qui nous donne du travail. Mais les PME alors restent confinées dans ce monde-là parce qu'il y a toujours cet élément de petit nombre. Dans une grande entreprise, on peut jouer sur la masse. Hein, si on se met en grève, c'est pas 30 ouvriers, c'est 300 et l'entreprise, elle se trouve en difficulté. Donc il faut dissocier c'est une question d'échelle. Entre des grandes entreprises qui deviennent fortement syndicalisées et puis des petits mondes qui restent quand même confinés dans une figure patronale et familiale très présente.
Alors là, nous étions dans cette période qui précède mai 68. 1938. Tout à l'heure, on va entendre comment est-ce qu'on déboulonne cette figure du père. Je vous propose d'entendre un peu de musique.
One, two, three. Now my room has got two windows, but the sunshine never comes through. Though it's always dark and dreary since I broke it off with you. I live on Lonely Avenue. Little girl, what say I do? Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die on Lonely Avenue. Lonely Avenue. Now my covers, they feel like lead, and my pillow, it feels like stone. Well, I've tossed and turned, so every night
Très belle reprise de Lonely Avenue par Ben Walters et P.G. Harvey. On repart de suite à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, ambiance années 68.
Notre collègue Michael Huberman a fait un travail absolument fabuleux pour que nous accédions au statut de faculté. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, en tout cas du côté des sciences de l'éducation, on était en autogestion. On était vraiment tous statuts confondus dans les mêmes salles et on discutait toujours ensemble de la totalité des questions que Michael Huberman amenait à l'ordre du jour. Il y avait beaucoup d'empoignades, mais on était tellement heureux de cette modalité de travail qu'on n'aurait pas voulu une autre manière de travailler, même si, d'une certaine façon, aujourd'hui, on pourrait dire, avec notre manie de l'efficacité, qu'on a quand même perdu beaucoup de temps. Mais Dieu, ce qu'on s'est formé et transformé au cours de ce processus. Michael avait une vision de ce que pouvaient devenir les sciences de l'éducation, donc toutes ses interventions étaient orientées dans cette perspective-là. On discutait ensemble de cette vision, on avait aussi nos propres perspectives que nous pouvions avancer.
Il y avait certes le conseil de section et le conseil des profs, mais ils étaient censés, enfin moralement obligés, d'entériner toutes les décisions qui avaient été prises en commission de gestion. Ça a tourné jusqu'en 1983-1984. J'arrivais en disant, nous avons obtenu 700 000 francs, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, chaque subdivision faisait des projets et il y avait une distribution équitable. L'institution s'est construite comme une institution militante, au sens large du terme de militant, militant de la chose éducative. Donc je ne pense pas que c'était représentatif de ce qui se passait par ailleurs dans l'université, mais c'était comme ça.
Mathilde Frémont, l'école de psychologie et de sciences de l'éducation, ça paraît être un lieu bien propice aux idées de mai 68. Qu'est-ce que ce vent nouveau, cette nouvelle mentalité est venue changer au niveau institutionnel dans cette école ?
Il faut s'imaginer qu'en 1912, quand l'Institut a été créé, c'était vraiment une petite institution complètement privée, financée par des fonds privés. Ensuite, ça devient un institut un peu plus conséquent, puisque Piaget va ramener beaucoup de fonds extérieurs, comme des fonds Ford qui viennent des États-Unis. Mais ça permet aussi un fonctionnement autre que celui de la faculté dans une institution qui a certaines règles. La FAPC, qui deviendra FAPC en fait en 1975, se rapproche petit à petit de l'université, donc il y a des clauses qui la rapprochent et qui lui demandent aussi d'avoir un fonctionnement plus proche finalement des autres facultés, mais en même temps elle est toute neuve, elle n'a pas d'histoire institutionnelle et elle doit se créer, et à ce moment-là arrive cette figure importante de Michael Huberman du côté des sciences éducation, qui va lui arriver avec ses nouvelles idées et une nouvelle manière de fonctionner, et je pense que cette manière de faire sera possible aussi parce qu'il y a tout à construire à ce moment-là. On doit donner une nouvelle vigueur, une nouvelle vie à cette institution qui était en train de se perdre puisque Piaget était parti et qu'il fallait en fait redonner du sens. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est ça qui permet ces formules d'autogestion, une recherche finalement de fonctionnement qui conviendrait au mieux et qui forcément est liée aussi au contexte à mai 68 et tout ce qui en fait est relatif à cette période très effervescente.
Il y a des tentatives d'organisation nouvelle qui passent donc au-dessus des hiérarchies traditionnelles et bien sûr au-dessus de l'ancienne hiérarchie à la Piaget. Piaget a pris sa retraite en 1971. Et puis, il y a aussi une sensation de liberté extraordinaire qui là est peut-être plus lié au contexte, au vent nouveau qui souffle, avec très peu de pression sur les résultats, sur les publications. Ça, les années 70, elles se caractérisent par cette liberté.
On sent effectivement qu'à ce moment-là, tout était possible. Finalement, on allait essayer tout azimut de trouver des nouvelles théories et que finalement, c'était comme si on était porté par un espèce d'élan et de croyance en l'éducation. Et je pense que c'est aussi, si on peut le remettre dans son contexte, lié à cette croyance que l'éducation va améliorer le monde. Donc il faut trouver des trucs, il faut trouver des théories qui vont aider l'éducation à mieux fonctionner. Et c'est un des défis, je pense, qui porte et qui n'est pas forcément formulé de cette manière-là par les récits. Mais c'est ça qu'on sent aussi, une espèce d'élan qui est finalement lié à tout un mouvement de société plus large.
Je pense que maintenant les choses sont différentes, c'est-à-dire que quand on est une femme, maintenant une jeune femme, on a intérêt à savoir un peu ce qu'on veut, parce que les règles institutionnelles, universitaires se sont ouvertes et se sont simultanément cristallisées dans un sens pas forcément très positif. Il faut savoir un peu à l'avance ce qu'on veut, ce n'était pas le cas quand j'étais assistante, on se laissait un peu vivre, on faisait notre travail, mais il n'y avait pas les soucis budgétaires d'aujourd'hui, il y avait moins de compétition. Nous, on nous a demandé d'être assistants, on a été reconnus pour notre travail, on a été repérés comme étudiants très vite. Maintenant, c'est pas du tout la même chose, il faut se battre, la compétition ne se posait pas de la même manière.
Mathilde Frémont, on n'a pas encore parlé des femmes. Dans ce climat très ouvert, très sympa, très, très libéré, on a l'impression que les femmes devraient tout naturellement trouver leur place dans les années 70 à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Est-ce que c'est tout à fait vrai?
Les femmes ont toujours eu une place particulière, je pense, de par leur activité au sein des écoles et au sein aussi de l'Institut. Cet Institut est déjà marqué dès son départ par une grande présence féminine. C'est quelque chose qui va durer, ce qui ne va pas empêcher finalement certains faits de société ou une réalité qui est ce qu'elle est. C'est que les femmes, c'est bien si elles travaillent, mais en même temps, elles auront des situations souvent plus précaires. Et ceci est une constante quand même à l'Institut, à l'école et à la faculté, et le reste encore actuellement.
Dans les premières années hors de Suisse, tout ce que la société suisse et genevoise offrait aux Suisses romandes, offrait aux femmes, l'image qu'elle avait des femmes et la place qu'elle leur destinait, me paraissait complètement déconnectée de ce qui se passait dans d'autres parties du monde. C'était pour moi si invraisemblable qu'au début, je me suis désintéressée de tout. Je me suis dit, ouais, c'est pas la peine que je m'énerve chaque fois, c'est une perte de mon énergie et de mon temps, il faut juste oublier. J'ai quand même remarqué qu'il y avait le mouvement du féminisme français qui était bien présent en Suisse aussi. Mais je ne me suis jamais engagée complètement sur le plan institutionnel ou formel dans cette lutte, parce que j'étais déjà dans celle de l'intégration, enfin de l'égalité des personnes handicapées. Et c'était lourd. Peut-être aussi parce que la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a eu quand même une histoire de présence féminine et que c'était moins terrifiant que dans d'autres lieux. J'ai suivi des femmes qui étaient dans les études de médecine et ce qu'elles ont vécu comme remarques, comme obstacles, comme chicanes, c'était invraisemblable. En 1976, Michael Huberman s'est débrouillé pour créer un poste d'enseignement qui était partagé en deux, une moitié pour un collègue et l'autre moitié pour moi. Quelques mois avant de commencer la rentrée universitaire, on m'avait signalé que le poste était toujours là. Toutefois, il était trois quarts pour ce collègue et un quart pour moi, parce que moi, j'étais mariée et donc j'avais un mari qui pouvait payer le loyer. Alors que mon collègue n'était pas marié, mais il avait quand même besoin d'un minimum vital. Je me suis dit que je ne pouvais pas me permettre de refuser cette opportunité. C'est exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire entrer en sciences de l'éducation avec la problématique des enfants handicapés. Et ma foi, un quart de temps, c'était mieux que rien du tout.
Laurent Tissot, ce vent de liberté de mai 68 n'a pas soufflé sur tous de la même façon. On a entendu dans ces témoignages cette phrase « l'éducation va sauver le monde ». On a aussi pensé que la culture ou l'éducation allait sauver le monde du travail.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Disons que c'est, Piaget le pensait déjà, que l'éducation et tous les professeurs pensent qu'ils vont sauver le monde. C'est le propre de l'université, en quelque sorte. Mais là, les remarques qui sont faites sont très intéressantes parce que finalement, au niveau, par exemple, de la place de la femme dans le monde du travail, c'est un combat, bien sûr, qui dure encore, où les inégalités sont nombreuses. Donc, c'est intéressant de voir que dans l'université, où c'était peut-être le lieu le plus propice d'amener des réformes, ce qui a été fait en partie. Mais l'élément, je dirais, de chantage, le dernier commentaire est terrible. Je reste, on me donne un quart, mais je reste parce que je veux faire ma carrière. C'est une nouvelle forme de paternalisme, peut-être plus institutionnelle. C'est-à-dire que c'est plus la figure du père, c'est la figure de l'institution qui crée des carrières, notamment dans des disciplines comme celle de la psychologie qui sont en plein développement, où il y a un marché du travail qui change, on a besoin de psychologues, etc., etc. Donc cette pression s'accentue, finalement, d'accepter n'importe quoi et des conditions qui sont peut-être pas très honnêtes. Alors là, ça prend la figure terrible parce que c'est, on donne un quart de plus au célibataire homme et puis un quart de moins à la femme mariée. Donc c'est un engrenage terrible, ce qui veut dire que quand même cette situation est très ambiguë. Elle est très ambiguë à ce niveau-là parce qu'il y a un discours qui fait croire que, et il y a des réalités qui sont complètement différentes et qui reflètent quand même de très vieilles structures. Donc, alors mai 68 doit être vu sous cet angle-là, et particulièrement dans ces disciplines-là. La faculté de droit, par exemple, bien sûr qu'il y a un vent de réforme de mai 68, il y a des pères qui sont déboulonnés, mais on reste quand même dans des facultés qui sont très masculines. Voilà, où ces genres de problèmes, on n'en discute pas, on les laisse là aux gauchistes. Mais ces facultés qui sont les plus à même, en quelque sorte, de réfléchir à ces questions-là, sont en quelque sorte un peu pris à leur propre jeu. Parce que, oui, elles innovent, mais d'un autre côté, eh bien, elles s'ancrent quand même dans des contextes qui sont très fortement traditionnalistes.
Et machistes.
Et machistes.
Laurent Tissot, on a entendu au début de ces témoignages, ces expériences d'autogestion dans cette nouvelle faculté qui venait d'entrer à l'université. Ils ont réellement essayé de mettre en place des procédés où les assistants avaient autant de pouvoir que les enseignants, etc. Ça, dans le monde du travail en Suisse, c'est des choses fréquentes ou c'est quasi absent?
Non, c'est quasi absent, c'est même un peu de l'utopie. Alors, il y a des expériences d'autogestion avec mai 68. Dans d'autres entreprises. Et notamment, vous avez une grande expérience qui a lieu pas loin d'ici, à Montbéliard, avec une entreprise horlogère française qui a été vendue pour différentes raisons et les travailleurs ont décidé de reprendre l'entreprise et de la gérer en forme d'autogestion. L'entreprise a quand même dû fermer, mais il y a quand même des essais. Alors peut-être le monde social français est quand même différent du monde social suisse parce qu'il y a d'autres traditions l'action là derrière. Mais il y a quand même des expériences qui sont menées. Mais ça reste quand même lié à des petites structures. Les grandes structures, elles opèrent sous d'autres modalités. Peut-être de ce point de vue-là, les grandes réformes, elles viennent du Japon, avec de nouvelles formes de production. Et par exemple, vous avez le toyotisme, où en quelque sorte, on essaie de casser le grand ensemble pour reformer de petits ensembles opératoires, fonctionnels, mais qui s'autogèrent. C'est-à-dire qu'on leur donne des mandats, vous êtes en mesure de nous produire telle pièce, à vous de vous débrouiller comment vous le faites, avec ce budget-là. Donc, en quelque sorte, c'est des formes d'autogestion, mais contrôlées.
Et qui ont quand même pour but une efficacité qui, clairement, n'est pas tout à fait recherchée à la FAPC, au dire des témoignages.
Bien sûr. Donc là, on a quand même des cas de figure qui sont différents.
Et puis là, on reçoit un témoignage que Nicole Corpato a pris au téléphone. C'est Daniel, 70 ans, qui a travaillé 20 ans dans la psychiatrie, élève à l'époque de l'école d'infirmiers en psychiatrie à Genève, et qui se souvient de séances fascinantes avec Piaget dans le cadre de sa formation, un sentiment de fascination, mais également crainte de son joug vis-à-vis de cette figure qu'incarnait Piaget. Donc de temps en temps, il faut peut-être des grands bonhommes comme ça, qu'il faut déboulonner aussi, ouais, on est en 68, ouais, pour faire bouger les choses.
Mais c'est toujours très ambigu, c'est je t'aime moi non plus.
Troisième période dans l'histoire vive et vécue par les enseignants de la FAPS, elle débute dans les années 80, grand virage et début des tensions.
Dans les années 1980 à 1990, les bagarres étaient féroces. C'était les coups tordus où rien ne se dit pendant la réunion de professeurs, mais tout au téléphone avant ou après, alors qu'en sciences de l'éducation, s'il y avait des conflits, on discutait, on se disputait même lors des réunions de professeurs, mais il n'y avait pas de coups tordus par derrière.
Au moment où je suis partie, c'était vers 1990. Le gâteau commençait à se réduire fortement. Je donne toujours le même exemple pour ça. Quand je suis arrivée à la faculté, la bibliothèque nous donnait la photocopie de tous les sommaires de revues qui paraissaient. On regardait ces sommaires, on mettait une croix à côté des articles qui nous intéressaient. La bibliothèque nous photocopiait les articles et ils arrivaient tout chauds, comme des petits pains, dans nos boîtes aux lettres. Ensuite, la bibliothèque a dit « On n'a plus les moyens, on ne peut plus vous faire les photocopies ». Alors on regardait les sommaires et on allait faire les photocopies nous-mêmes. Ensuite, la bibliothèque a dit « On ne peut plus vous donner les sommaires, on n'a plus les moyens ». Donc, il fallait regarder toutes les revues. C'est très typique, je trouve, de la dégradation des moyens de la faculté et donc des moyens qu'on avait eus. Je me disais « Le gâteau se rétrécit, j'ai peu de pouvoir dans cette faculté, je ne vais pas avoir de moyens du tout ». Et là, ça ne m'a plus intéressée et je suis partie.
C'est au moment où j'étais président, en 1992-1993, qu'il y avait toutes ces négociations. Ce n'était pas mon choix, non, ce n'était pas mon choix. Par contre, ce qui était mon choix, c'était de penser à une formation des maîtres, non pas la faire à la condition où ça a été fait, brutalement. Ça a été plaqué pour des questions, pour moi, essentiellement économiques, et pas des questions pédagogiques. Ça permettait de faire des réductions, donner des crédits, parce que ça supprimait des structures. C'était imposé par le DIP. Tout était dicté par le DIP.
Mathilde Frémont, tension, pression, conflit, qu'est-ce qui s'est passé dans cette faculté de psychologie et des sciences de l'éducation au niveau institutionnel pour expliquer ce virage dans l'atmosphère générale dans les années 80, dans les années 90?
Où il y a plusieurs éléments qui peuvent être évoqués, mais les récits qu'on vient d'entendre nous parlent notamment de la mise en place de la licence mention enseignement, donc de l'intégration de la formation des enseignants à l'intérieur de l'université. Avant, c'était une institution extérieure qui s'appelait les études pédagogiques, qui ont été intégrées à l'intérieur de la faculté. La faculté a dû participer à cette mise en place et, comme dans toute réorganisation, à l'intérieur même de la faculté, certains étaient pour, certains étaient contre. Et en plus, certaines personnes négociaient avec le département de l'instruction publique et d'autres pas. Et cette controverse a vraiment fait beaucoup d'émulation à cette époque-là. Mais c'est aussi un apport extrêmement important pour la faculté, puisque à ce moment-là, le DIP donne la mission à la faculté de former des enseignants et cela augmente le nombre d'étudiants. Et donc, ça rend flou, entre guillemets, les caisses de la faculté et lui donne aussi plus de pouvoir, plus d'empan, ce qui fait aussi que c'est toujours actuellement une faculté en sciences d'éducation très développée par rapport au reste de la Romandie, puisque les autres cantons ont fait le choix de garder des écoles professionnelles qui sont extérieures à l'université.
Et puis, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, Mathilde Frémont, c'est le développement de la formation des adultes. Ça aussi, ça donne une justification à cette faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Ça lui donne une utilité dans la cité.
Tout à fait. La formation d'adultes, dans ces récits, ressort comme quelque chose qui fait partie de l'identité de la FAPSE, puisque c'est un peu certains chercheurs qui se sont déplacés. Il y en a qui sont passés de Piaget jusqu'à la formation des adultes. Le pas est gigantesque, mais en même temps, il y a de nouveau une écoute par rapport à un contexte qui commence à croire au long life learning. Donc on croit toute la philosophie d'un apprentissage tout au long de la vie est pris comme objet de recherche par ces chercheurs et développé de manière concrète.
Le premier cours pour chômeurs à Genève, c'est nous qui l'avions monté. À l'époque, Huberman me disait « Johnny, qu'est-ce que tu fais avec des chômeurs à l'université ? Ce n'est pas un public de l'université. » Il y avait donc cette représentation. L'université s'occupe des cadres supérieurs. Pour moi, ça a été très très intéressant parce que la formation de ces publics-là est mille fois plus passionnante que la formation de n'importe quel universitaire.
La situation à l'université commençait à changer parce qu'il y avait un intérêt des étudiantes, et je dis étudiantes parce qu'il s'agissait majoritairement de femmes. Il y avait un effet de miroir, je parlais de la formation des femmes et en même temps c'était une situation de femmes en formation. Cet effet de miroir était parfois éclairant, parfois brouillait un peu les cartes, mais cela était, je crois, une sorte d'aventure collective. Au fur et à mesure que les cours avançaient, il y avait des femmes qui écrivaient des travaux, qui apportaient leur contribution théorique à un champ de recherche naissant.
Nous travaillions comme une équipe de consultants dans la formation d'adultes. Il y avait donc ce contact fort. Le milieu des entreprises venait dans le monde académique et nous allions chez eux. Il y avait ce partenariat. Enfin, on demandait à l'étudiant de faire une présentation des résultats de son travail. Alors, l'étudiant comprenait tout de suite l'intérêt de la chose. Il se rendait compte que l'exercice devenait un peu plus difficile, qu'il n'était pas toujours maître du temps. Si vous décidez de faire des entretiens au sein d'un lieu où les gens travaillent, vous devez attendre que les gens soient disponibles. Donc le temps risque de s'allonger. Mais les étudiants ont bien accepté ça parce qu'ils ont compris l'intérêt de la chose. Ils ont compris que ça les préparait à entrer dans le monde du travail beaucoup mieux que classiquement.
Mathilde Frémont, on sent dans ces témoignages cette préoccupation pour une professionnalisation des étudiants. Il s'agit de faire des études efficaces.
Il s'agit de faire des études efficaces, effectivement, mais je pense que le terme d'efficacité peut être vu d'une autre manière à cette époque-là. On voulait vraiment une formation qui parle aux gens, une formation qui leur permette d'aller de l'avant et de transformer leurs connaissances. Alors qu'aujourd'hui, on penserait plutôt à des formations efficaces qui vont le plus vite possible. Et je pense pas qu'ils
sont rentables.
Voilà, c'était pas une question de temps, mais une question de changement et de transformation de la personne.
Une des choses qui sort encore par rapport à ce dernier chapitre de votre livre « Histoire vive d'une faculté », c'est l'internationalisation du corps enseignant à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation à Genève, avec tous les problèmes que cela pose pour des chercheurs, pour des chercheuses, de venir ici, en dehors de leur contexte professionnel habituel, loin de leur famille.
Exactement. Dans un parcours lambda, même de doctorant, actuellement, il est fortement conseillé de partir à l'étranger pour une certaine période. Et les engagements se font aussi de plus en plus de manière ouverte. Et les différents processus actuels font que la compétition entre facultés exige de la part des institutions d'aussi avoir un certain quota de personnes qui viennent de l'étranger.
Je suis arrivé de Paris en 1998. Changer de pays, c'est la double absence, comme dit Sayad. C'est-à-dire que j'arrive dans un univers où la langue est théoriquement la même, mais les références ne sont pas forcément les mêmes. Il y a un problème d'insertion, je dirais, qui n'est pas toujours facile. Et par ailleurs, on devient absent de chez soi. le pays de départ, fait avec l'absence de la personne, sans que l'on puisse toujours décoder les règles du jeu du pays où l'on est. On n'est pas dans le premier et pas vraiment dans le second. De façon très anecdotique mais assez profonde, très vite j'ai eu un collègue, Charles Engberg, qui m'a invité à faire partie d'un comité de direction d'une revue qu'il voulait lancer sur la didactique de l'histoire. La didactique de l'histoire, je connais quand même assez bien, donc je n'avais pas de problème de repère. Ensuite, quand nous terminions ces réunions de comité de rédaction et que nous allions dîner, à ce moment-là, je voyais bien que mes repères disparaissaient parce qu'ils parlaient de tel prof à Lausanne, de machin, de trucs. Et comme ici le système cantonal fait que le pouvoir est extrêmement proche des acteurs, il y a des réseaux dans lesquels je n'étais pas et je n'y suis toujours pas. Ça, c'est une question de distance de ma part. C'est aussi une question de caractère, mais je vois, cette insertion n'est pas toujours facile.
Des tensions et une université de plus en plus efficace qui cherche à correspondre aux attentes de la société, à former des gens. L'économie prend le pas sur la recherche pure. Ce mouvement est général en Suisse, Laurent Tissot ?
Oui, je crois qu'on peut le dire. On peut le dire dans la mesure où la Suisse n'a pas de pétrole, n'a pas de matières premières, donc elle doit agir avec les cerveaux de ses citoyens. Donc c'est en quelque sorte encourageant, en favorisant ces économies dites immatérielles, qu'elle peut être encore compétitive. Donc ce qui se passe à la FAPC, cet esprit compétitif toujours plus important, les pressions, c'est publish or perish, vous publiez ou vous disparaissez, ça se ressent dans d'autres milieux professionnels, avec d'autres modalités, mais c'est un peu les mêmes éléments, c'est-à-dire que la rentabilité devient le terme important. Il faut être rentable, il faut être le meilleur aussi, parce que la compétitivité implique l'excellence. Alors c'est un terme qui va devenir maintenant une espèce de tarte à la crème. Toutes les universités sont excellentes. Dans les logos, il faut être excellent. C'est ce que nous allons.
C'est voilà. Ce qu'on demande à l'ADN d'une université.
Exactement, absolument. Donc c'est un monde qui change. Et là, disons que les témoignages reflètent bien, surtout dans un milieu où on voit les coupes budgétaires, bien sûr, qui en quelque sorte deviennent encore accentuer cette pression, c'est-à-dire que les éliminations seront plus importantes qu'avant, où on avait 700 000 francs qui nous tombaient du jour au lendemain, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Là, c'est le contraire. Donc c'est en quelque sorte une espèce de nouveaux paramètres qui est quand même, c'est un tsunami quand même qui a changé profondément les choses. Et la recherche, c'est quoi la recherche ? C'est quoi d'innover ? Est-ce que c'est adapté à une situation ? Est-ce qu'on s'adapte à un marché ou au contraire la recherche, c'est qu'on découvre de nouvelles choses, ce qui fait qu'on va pas s'adapter à un marché, on va créer un nouveau marché. Donc il faut en quelque sorte articuler ces tensions qui ne sont pas toujours faciles à articuler parce que c'est même contradictoire. Et surtout dans des domaines comme cela, comme la psychologie, où il y a une forte demande, mais en même temps on veut innover. Donc voilà, en quelque sorte, soit on prend le parti, on va s'adapter, là on aura une réponse du marché, et puis on va nous donner de l'argent parce que voilà, on donne les bonnes réponses, ou soit on prend l'autre parti d'innover, mais en quelque sorte de peut-être se marginaliser.
Laurent Tissot, on entendait aussi ce souci dans le monde académique d'avoir roulé sa bosse, d'avoir bougé d'un pays à l'autre. La mobilité, que ce soit internationale ou au sein des entreprises, c'est une des caractéristiques des CV d'aujourd'hui. On ne reste pas dans l'endroit dans lequel on a commencé.
Non, c'est vrai. Je suis membre du Front National, donc je vois beaucoup de CV. Je vois beaucoup de CV. Et c'est un élément déterminant. C'est-à-dire que c'est même le kilométrage. Parce que mobilité, ça veut dire souplesse, ça veut dire ouverture, mais je ne sais pas. Ce sont des mots qu'on dit. Parce que finalement, si on admet d'un côté qu'il y a une internationalisation de la recherche, on peut avoir accès à tous les articles sur Internet, ici, en Suisse, dans mon bureau. Et en même temps, on dit, mais il faut partir. Mais je peux avoir tout chez moi, donc pourquoi partir ? Mais voilà, c'est une exigence en quelque sorte qui est maintenant une espèce de standard. Quelqu'un qui reste dans la même université depuis le début n'a plus aucune chance, à moins d'avoir peut-être trouvé des compromissions. Mais le CV est même pour moi, une génération quand même qui n'est pas trop vieille, mais avec le CV que j'ai aujourd'hui, je n'aurai plus aucune chance. Dans la mesure où j'ai des assistants qui présentent des CV qui sont beaucoup mieux que les miens. Et je rougis un peu.
Ils sont construits à la base, hein, ces CV. Maintenant, dans le monde académique, il y a une mobilité qui est choisie, qui est désirée. Par ailleurs, dans le monde du travail, il y a souvent une mobilité qui est subie. C'est-à-dire qu'on a un CV qui est morcelé de facto parce que les contrats sont plus fragiles, à durée déterminée, et que ma foi, on zappe.
Oui, exactement. Et peut-être c'est une mobilité qui est terrifiante. Parce qu'elle a, elle a des contre-coups. Lorsque me dit ce qu'a dit M. Bullinger, c'est vrai que c'est, bien sûr, le changement implique parfois des difficultés d'insertion. Alors, c'est vrai, bon, dans le cas de Genève, notamment, les salaires d'enseignants étaient quand même tout à fait bons, comparativement à ce qui se passe ailleurs. Mais on peut comprendre que pour d'autres personnes, la mobilité implique une dégradation des niveaux de vie qui peut être difficilement acceptable, d'où le fait qu'aujourd'hui, mais les burn-out, les dépressions se comptent par milliers, et qui créent un marché de la psychologie, des psychothérapeutes.
Et puis il y a également la pression de l'apprentissage, long life learning, formation continue.
Tout à fait.
Dans tous les métiers. Maintenant.
Absolument. Et la FAPCE alors était effectivement une des innovatrices là-dedans. C'est-à-dire qu'elle a encouragé une formation continue, c'est-à-dire d'ouvrir l'université non seulement à des étudiants, mais peut-être à des gens qui sont d'un âge différent, qui ont envie de reconsidérer leur parcours professionnel. Et je trouve que là, c'est un plus. Et la FAPCE a été quand même un des moteurs là-dedans. Et c'est à mettre à son crédit.
À son crédit. Donc, ils nous ont tricoté, d'une certaine façon, ils ont tricoté ce monde du travail.
Oui, à leur façon, certainement, certainement. Alors, les impacts, bien sûr, mériteraient d'être étudiés. Alors, ça, c'est difficile à le mesurer, mais ils ont tricoté dans le bon sens, c'est-à-dire des bons tricots, bien chauds, mais qui s'adaptent, qui sont souples. Et la réflexion continue. Alors parfois on a le sentiment que c'est une grosse faculté parce qu'il y a maintenant beaucoup d'étudiants, c'est même un monde étrange, mais ils ont toujours eu en quelque sorte cette volonté d'agir sur le monde, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres facultés.
Une faculté qui s'est construite sur le militantisme,
aussi,
on l'entendait dans les témoignages.
Très nettement. Ouais.
Laurent Tissot, vous travaillez maintenant sur le néolibéralisme qui donne son empreinte à notre marché du travail. En quelques mots, si vous deviez nous dire quelles sont les grandes tendances pour aujourd'hui, pour demain, de ces carrières, de ces CV?
Alors, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a encore une réflexion suffisante sur les impacts d'un monde où, en quelque sorte, nous sommes tous des loups. Et on est prêt à se manger entre soi. C'est encore le cas dans beaucoup d'entreprises. Et les ravages sont très importants. Mais je suis quand même assez optimiste dans la mesure où l'être humain a une capacité de réaction, de réflexion, qui amène quand même à critiquer ce qui se passe aujourd'hui, et même dans des grandes entreprises. Et peut-être, on voit dans les milieux bancaires, où là, peut-être ces impacts ont été très forts, quand même des réflexions qui montrent que c'est peut-être pas le meilleur des mondes possibles et que finalement une vie, une existence de 60, 80 ans doit se faire aussi dans une certaine sérénité. Et l'excellence avec un E majuscule, un E minuscule, ça reste aussi des mots, bien sûr.
Laurent Tissot, je vous remercie d'être venu pour passer cette heure en notre compagnie dans Babylone. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'université de Neuchâtel. Vous avez écrit une histoire de l'université de Lausanne parue aux éditions Payot. Laurence Di Félix, cette émission a été initiée par Histoire vive d'une faculté, récit d'acteurs et d'actrices de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. C'est paru aux éditions Antipode. C'est une parution toute récente. Aujourd'hui, dans Babylone, nos lecteurs étaient Jean-Marc Falcombello, Laurence Di Félix. On fonctionne comme une petite PME.
Laurence Froidevaux.
C'est Laurence Di Félix qui a concocté cette émission pour nous. Mais j'avais juste envie de placer que voilà, on travaille en famille, ce qui est pas si mal.
À la piège.
Merci en régie à Carmen Algarada, à Hélène Ichter, ainsi qu'à Nicole Corpato. Demain, pour le grand entretien, Annick Chouin vous entraîne en Corée du Nord pour Nouilles froides à Pyongyang, en compagnie de Jean-Luc Coitelem. Et puis nous, on se retrouve lundi 9h comme d'habitude. Tout à l'heure, c'est les mémoires de la musique. Vous écoutez Espace 2. Merci. Il est 10h.